Crésus, Crésus, la radio qui vous aide.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Crésus, la radio qui vous aide à mieux comprendre, mieux consommer et mieux vivre votre budget au quotidien. Alors dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, Radio Crésus a décidé de s'attaquer à un sujet qui touche tout le monde. Comment s'habiller sans exploser son budget, mais sans renier ses valeurs? Alors aujourd'hui, on parle de fast fashion, seconde main, refashion, consommation responsable. Avec nous, Agnès Foul, chargée de mission achat responsable à la Chambre de consommation d'Alsace et du Grand Est.
Bonjour Régis, bonjour Jean-François, bonjour les auditeurs et les auditrices.
Merci Agnès, bonjour à Jean-François qui était aussi avec Agnès. Moi pour animer. Voilà. Alors on va commencer très rapidement dans le vif du sujet, sur d'abord votre mission Agnès.
Oui, alors je suis effectivement chargée de mission à la Chambre de consommation d'Alsace et du Grand Est, qui est une association de droit local, qui compte une quarantaine d'adhérentes des différents départements d'Alsace et de Lorraine, principalement des associations de mouvements de consommateurs, mais également des associations de mouvements spécialisés, s'occupant de problématiques spécifiques de consommation à l'utilité sociale reconnue. La Chambre appuie ses membres dans leurs actions et s'adresse aussi au grand public. Elle informe sur le droit des consommateurs et les accompagne vers des modes de consommation plus responsables. C'est justement ma mission.
Exactement. Achat responsable, chargé de mission achat responsable. Alors peut-être en quelques mots concrètement, comment ça peut se traduire?
Alors ça se traduit par de l'information, c'est la base, à travers nos différents supports de communication, nos sites internet, celui de la Chambre de consommation, cca.inso.fr, et également le site zigzag.info. qui est un site qui fait la promotion des achats responsables, enfin la promotion en tout cas des structures de la production responsable, permettant ainsi aux consommateurs de faire des choix plus éclairés sur ces achats.
Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. On reportera d'ailleurs les informations de la Chambre et ainsi que de zigzag.info dans le bandeau qui sera diffusé sur Internet.
Agnès, question toute simple pour commencer. Pourquoi on s'habille? Est-ce que c'est juste une question de nécessité ou est-ce qu'il y a derrière nos achats de vêtements un besoin d'appartenance, voire une forme d'addiction à l'achat? Besoin ou désir?
Alors, la notion de besoin renvoie d'abord au renouvellement de vêtements sur des critères objectifs. On s'habille, bien sûr, par nécessité, c'est sûr. Mais après, pour le renouvellement, il va s'agir pour de raisons d'usage, d'usure, pardon, le vêtement usé, abîmé, pour des questions de changement de poids, etc. Donc tout ça, ce sont bien des besoins. Mais une occasion particulière, comme un mariage ou un entretien d'embauche, ou une activité spécifique, la pratique d'un sport, sont également source de besoins d'achat. Ainsi, les achats de vêtements sont liés à des besoins de sociabilité, d'intégration, d'identification, de distinction et revêtent alors une forte valeur sociale. Toutefois, il faut noter qu'il existe chez certains consommateurs un besoin de nouveauté qui montre une vraie porosité entre les notions de besoin et de plaisir dans l'achat de vêtements. Et là, la problématique de la surconsommation dont on va parler plus tard n'est pas forcément un argument de poids pour faire changer les mentalités.
Et quel rôle joue aujourd'hui la facilité d'acheter des vêtements en ligne?
Alors, malgré l'explosion d'Internet et de toutes ces plateformes et boutiques en ligne, d'après les chiffres de l'Observatoire de la consommation responsable, l'OPSOCO, des chiffres parus en juin dernier, donc c'est tout récent, les boutiques restent le lieu d'achat privilégié pour les vêtements pour 56% des Français. Donc même si 30% des achats mode se font en ligne, on va dire qu'Internet sert surtout à faire du repérage pour les consommateurs. Ils préfèrent quand même aller en magasin pour toucher les vêtements, les essayer, etc. À noter toutefois que sur ces 30% d'achats mode en France, la moitié sont des achats de seconde main, porté par une certaine plateforme que je ne nommerai pas aujourd'hui ici.
D'accord, mais qu'on connaît tous, évidemment. Voilà. Alors c'est vrai qu'on s'est intéressé aussi au volume des dépenses en argent des ménages en France pour la fast fashion, et on s'est rendu compte que ces dépenses finalement ont baissé Alors qu'on voit qu'on est inondé finalement de vêtements aujourd'hui de ce type-là. Hein. Mais est-ce que ça veut dire qu'on achète moins de vêtements en volume ?
Eh bien non, cette légère baisse des dépenses ne signifie pas baisse de la consommation, car elle coïncide en fait avec une importante hausse des volumes vendus, notamment par les enseignes d'ultra fast fashion. Donc là, ça va encore plus loin que la fast fashion. Hein. Mm-hmm. Ce sont des collections qui sont renouvelées très 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 souvent et des prix très bas. Et ces prix très bas jouent massivement sur le renouvellement des vêtements. Donc en fait, on est plutôt à une augmentation des volumes, puisqu'on a plus 39% hein, en 2025 par rapport à 2024 sur les flux de vêtements neufs. Donc voilà, non, les prix baissent, mais pas les volumes. Et l'OPSOCO, donc l'Observatoire de la consommation responsable, estime qu'au moins 120 millions de vêtements à l'état neuf sont stockés dans les placards des Français.
C'est énorme.
Énorme.
Ouais. Et pourquoi faire ?
Ah, ben si seulement on savait.
Voilà, mais c'est important d'avoir ces chiffres effectivement connus, hein, parce qu'on se rend bien compte que bien, le fait d'acheter des vêtements, aujourd'hui c'est très simple, c'est mécanique, on va dire. Hein.
Ben, c'est facilité. Ouais, ouais.
On ne se pose même plus la question du besoin, on a envie d'acheter, on achète.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Et donc on voit qu'effectivement ça va avoir aussi des conséquences, mais ça c'est dans la deuxième partie de cette émission, des conséquences aussi au niveau écologique et autres, hein,
tout à fait.
Qu'il faudra peut-être aussi prendre en considération dans le cadre d'un achat plus responsable.
Oui.
Alors avant d'en arriver là, peut-être s'interroger aussi sur le rôle des influenceurs dans tout ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, leur action n'est pas négligeable hein, en termes d'achat ou d'acte d'achat. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce rôle ?
Alors ce rôle existe, hein, c'est sûr. Hein, la promotion de produits de toutes sortes fait partie des activités des influenceurs, qui sont des figures incontournables des réseaux sociaux depuis plusieurs années hein, maintenant. Leur mission est d'inciter un large public à cliquer sur le lien de la marque mise en avant pour acheter les 10 produits. Et si la plupart des influenceurs sont rémunérés ou reçoivent des cadeaux en contrepartie, les consommateurs ne sont pas toujours conscients qu'il s'agit d'une stratégie commerciale et non d'un conseil spontané comme un ami pourrait le faire à un autre, quoi. Parallèlement à cela, de nouvelles pratiques trompeuses ont été révélées, notamment celles s'appuyant sur l'intelligence artificielle, pour générer des annonces reproduisant les codes des annonces, vous savez, qui décrivent des pièces textiles d'occasion sur cette plateforme dont on ne cite pas le nom,
oui.
Une plateforme de seconde main. Et c'est une tendance inquiétante de l'ultra fast fashion qui utilise ce stratagème pour vendre des articles neufs à prix d'or et pour vraiment booster ses ventes et inciter vraiment les clients à faire des achats et à surconsommer.
D'accord, ça veut dire qu'on profite finalement de l'image de la marque qui se dit vendre du seconde main, donc on peut trouver des bonnes affaires. Ouais. Mais en fait, on va trouver des produits de fast fashion, c'est ça ?
Des produits neufs, oui.
Des produits neufs qui sont présentés comme du...
comme des pièces de seconde main, rares, des perles rares, des pépites,
oui,
etc.
Parce qu'on est en excellent état, forcément.
Voilà.
Hein.
Bah,
donc,
oui.
y a tromperie sur la marchandise, au fond.
Tout à fait.
Voilà. Et en plus, on ne sait pas, enfin, on connaît pas les conditions aussi de production de ce produit. Et là, ça peut amener effectivement sur d'autres questions qui viennent derrière. Hein. Ouais. Alors peut-être sur les influenceurs, c'est sûr que, on sait que généralement les plateformes les plus influentes et les influenceurs se trouvent sur Instagram et TikTok hein, aujourd'hui. Hein, c'est ça. Hein. On sait que alors il y a des chiffres qui disent 8 cas sur 10, un achat est fait après recommandation d'un influenceur hein, sur Internet. Donc on voit que c'est pas négligeable. Alors pourquoi ces influenceurs sont-ils si efficaces vis-à-vis de leur public ?
Alors en fait, c'est parce qu'ils jouent sur la corde sensible hein, de l'affectif, de l'amical. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le vêtement, c'est un signe d'appartenance, de reconnaissance et d'identification. Donc quand des jeunes personnes s'identifient, des jeunes ou des moins jeunes hein, d'ailleurs,
bien sûr, ouais.
s'identifient à un influenceur ou une influenceuse, eh bien cet acte d'achat est fortement encouragé lorsque cet influenceur va porter des vêtements ou les mettre en avant dans ses publications, dans ses vidéos, etc. Donc forcément, l'acte d'achat là est encouragé, et même plus qu'encouragé, même s'il n'est pas forcément dit, même si ça n'est pas forcément dit avec des mots, on sait que l'influence est là.
D'accord. Oui, il y a une sorte d'identification aussi par rapport à l'influenceur et ce qu'il véhicule comme,
comme image. Oui, tout à fait.
Hein. Tout à fait. Donc, c'est par rapport à toutes ces tendances qui sont créées, finalement, artificielles pour certaines, hein, bien sûr.
Oui, c'est une nouvelle forme de marketing, en fait, hein, qui est très puissante et très efficace.
D'accord. Et vous l'avez dit aussi, cette forme d'authenticité dans la relation... Qui donne le sentiment qu'on est dans une relation privilégiée de conseils désintéressés, alors qu'au final, on a bien compris que derrière, il y avait des intérêts économiques.
Tout à fait. C'est une stratégie commerciale qui joue sur le lien affectif réel ou supposé ou imaginé parfois.
Ben voilà. Alors, on a pu aussi voir, par exemple, sur certaines études, qu'il y avait 72% des utilisateurs Instagram qui ont acheté des vêtements après avoir vu effectivement soit une promotion, soit un influenceur. Donc ça, c'est pas négligeable. Hein. C'est un peu moins fort sur TikTok, un peu moins de la moitié. Hein. Mais en tout cas, on voit que ça a un impact certain. Hein.
Tout à fait. Les réseaux sociaux savent convaincre et mettre en image justement un style de vie, une façon d'être qui vont être des modèles pour de nombreuses personnes.
Donc on voit qu'effectivement il faudra peut-être aussi donner peut-être quelques conseils en disant prenez aussi du recul par rapport à ces influenceurs.
Alors d'une manière générale sur les réseaux sociaux il faut toujours avoir un petit peu de recul, hein, bien sûr. Maintenant la profession d'influenceur est très réglementée, très encadrée et ceux-ci ne sont pas censés faire de la promotion commerciale de façon cachée. Ce doit être annoncé clairement, pour que justement les utilisateurs sachent de quoi ils retournent.
D'accord.
Donc le premier conseil, bien sûr, est de vérifier que tout ceci est bien respecté, que ce cadre est bien respecté et que l'influenceur dit clairement les choses. Maintenant, bien sûr...
Il n'y a pas un contrôle systématique, voilà.
Ben, c'est pas évident, hein. Bien sûr, il y a des organismes de contrôle, mais c'est toujours un petit peu délicat vu le volume, le nombre d'influenceurs, le nombre de followers, enfin de personnes qui suivent ces influenceurs, et le nombre de publications qui sont mises en ligne. C'est un gros travail. Hein,
Alors, peut-être pour rappeler ces chiffres aussi, hein, c'est-à-dire qu'en France, 78% des influenceurs sont des nano-influenceurs hein, qui ont moins de 10 000 abonnés. Hein, donc ça veut dire qu'effectivement, il y en a un certain nombre, avec un fort taux d'engagement pour ces influenceurs, hein, nano-influenceurs. Et rappelons également que le marché mondial du marketing d'influence hein, dans la mode est estimé à plus de 21 milliards de dollars. Hein, donc on voit qu'il y a un fort...
C'est une grosse machine. Hein.
Une grosse machine, on est d'accord. Ouais. Hein. Alors peut-être passons à la partie 2 hein, sur les dessous de la fast fashion.
Oui, alors l'ADEME, l'Agence de transition écologique, nous dit que la fast fashion génère plus de 4 milliards de tonnes de CO2, autrement dit du dioxyde de carbone, plus que les émissions de vols internationaux et du trafic maritime réunis. Est-ce important d'en parler ?
Oui, c'est important en effet, hein, Jean-François, puisque tous nos actes d'achat ont des impacts. Et notamment, l'industrie textile se rend responsable de 4% des prélèvements d'eau potable dans le monde, souvent dans des régions déjà en situation de stress hydrique, hein, comme le Bangladesh ou l'Inde, principalement à cause de la culture du coton, très gourmande en eau. Et 20% de la pollution de l'eau mondiale serait causée par cette industrie et les produits nocifs qu'elle utilise, comme les colorants. Hein. Donc tout ça, ce sont des chiffres de l'ADEME. Par exemple, l'ADEME nous donne, pour illustrer ce propos, le chiffre de 2700 litres d'eau qui se cacherait derrière notre t-shirt en coton. C'est l'équivalent de 70 douches pour un t-shirt. Donc voilà. Quand on fait des achats, ce ne sont pas des gestes anodins, il y a des conséquences derrière. Donc voilà, c'est important de le savoir. Et on sait aujourd'hui que parmi les principaux coupables de la pollution de l'eau sur Terre, les microplastiques libérés au lavage de nos vêtements synthétiques sont très
importantes. Une source de pollution
très importante.
Ouais.
Oui. Et voilà, il y a des solutions à notre échelle. Et notamment réduire sa consommation de textiles, privilégier les achats de seconde main et de slow fashion, et choisir des matières durables comme le lin, le chanvre et les tissus bio qui sont moins gourmands en eau. C'est une façon de ne pas contribuer à cette énorme pollution mondiale.
Alors c'est compliqué hein, parce que je dirais que c'est un mouvement qui s'intensifie. Hein. Alors quand on prend un peu l'histoire du vêtement, alors on a eu sans remonter très loin, mais au XXe siècle, on a eu les années 50-70 où on a eu l'apparition du prêt-à-porter moderne, on va dire. Les années 80-90 où il y a la mondialisation de la production du textile. Ensuite, il y a où la consommation de vêtements devient un produit de masse. Hein. Et puis, aujourd'hui, 21e siècle, on voit que la logistique mondiale est ultra rapide et tout va plus vite. Hein.
Oui, en effet. Alors, c'est peut-être pour le meilleur, diront certains, mais sûrement pour le pire d'un point de vue environnemental. Mais pas uniquement. Hein. On sait qu'il y a aussi des dessous, des conditions de travail, des conditions sociales derrière cette industrie qui sont loin d'être paradisiaques. Hein.
On aura l'occasion d'en reparler avec Jean-François. Oui. Alors, on sait qu'on achète en moyenne en France 40 vêtements par an, dont beaucoup ne sont portés que 4 ou 5 fois et ensuite jetés ou donnés. Alors, peut-on dire que nos habitudes de consommation sont vertueuses?
Ah ben loin de là, hein. Bien sûr. Alors, il faut dire qu'il y a aussi le taux d'erreur ou d'achats inutiles qui est presque deux fois plus élevé dans l'ultra fast fashion que dans les autres catégories d'enseignes. Quand on va dans des enseignes de prêt-à-porter classiques, en boutique notamment, où on va essayer le vêtement, prendre le temps de le choisir, sûrement parce qu'il est un petit peu plus cher, on va faire un achat plus réfléchi, sans doute. Dans l'ultra fast fashion, les prix hyper bas, hyper compressés, font que on n'a pas la même réflexion au moment de l'achat et on va acheter, consommer en nombre et sur le tas, bah forcément, il y a une proportion d'erreurs ou encore une fois, d'achats inutiles. Ce qui me ramène au chiffre que j'évoquais tout à l'heure, hein, des 120 millions de vêtements qui sont stockés dans les placards de Français.
Donc, d'accord. Donc ce qui veut dire qu'effectivement, cette nouvelle manière de produire hein, et de vendre fast fashion, ça a une incidence directe sur le comportement du consommateur qui finalement est de plus en plus débridé et va acheter pour acheter.
Alors, il y a ça, il y a acheter pour acheter, et puis cette ultra fast fashion, ce mode de production, on y voit aussi une surreprésentation dans le nombre de consommateurs, on y voit une surreprésentation des ménages modestes, hein, à 57%. Ils ont une contrainte budgétaire relativement importante.
Tout à fait.
Et on peut comprendre en effet que cette contrainte budgétaire et la possibilité de renouveler rapidement sa garde-robe avec l'ultra fast fashion sont au cœur des motivations associées à la fréquentation de ces enseignes.
Bien sûr, c'est un élément à ne pas négliger. Hein.
Tout à fait, et c'est compréhensible. Maintenant, on calcule à peu près que 45% des Français consomment de la fast fashion et 24% de l'ultra fast fashion, tout en étant, pour autant, très critique quant à la qualité des produits vendus par ces catégories d'enseignes. Donc, on achète souvent parce que, eh bien, on n'a pas vraiment le choix, financièrement parlant, mais on est conscient de la mauvaise qualité du produit.
D'accord, c'est un vrai dilemme, en fait, hein.
Ah ben, il faut faire des arbitrages, hein, c'est sûr, avec des budgets contraints et la nécessité tout de même de se vêtir.
voilà. Bon, je pense qu'on verra aussi en fin d'émission aussi quels sont les conseils qu'on peut donner. Hein.
Il y a des solutions.
Hein, donc, Jean-François, peut-être une question.
Est-ce que les consommateurs savent vraiment dans quelles conditions sont fabriqués ces vêtements et comment le savoir?
Alors, que ce soit la composition, l'entretien ou encore l'origine du produit, les étiquettes des vêtements apportent aujourd'hui des informations essentielles pour bien faire son choix et bien sûr conserver ses vêtements en bon état. Depuis le 1er octobre dernier, hein, donc c'est tout récent, un nouvel affichage peut apparaître sur les vêtements afin d'informer le consommateur sur l'impact écologique de ces produits. Parmi les critères qui sont pris en compte, il y a la consommation d'eau, dont on parlait tout à l'heure, bien sûr, et d'autres ressources naturelles, mais aussi les modes de transport utilisés pour mettre le produit à disposition des consommateurs, ou encore les possibilités de recyclage ou de réparation. Mais c'est un dispositif qui repose sur le volontariat des marques. Donc autant vous dire que ça n'est pas encore massif. Hein.
D'accord.
Après, pour ce qui est des conditions de fabrication, aujourd'hui l'information va très vite. Hein. On parlait des inconvénients, disons, et du recul qu'il faut avoir avec Internet et les réseaux sociaux. Mais il faut dire quand même que cela nous apporte une information qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années, mm-hmm. Moi, dans ma génération, par exemple. Mm-hmm. Mm-hmm. Aujourd'hui, on peut avoir des informations très facilement sur les marques et sur les conditions de travail.
D'accord. Donc ça peut être effectivement un critère de choix ensuite.
Ça l'est, en effet, pour certaines personnes, de plus en plus d'ailleurs de consommateurs sont préoccupés mm-hmm. par la façon, par les conditions dans lesquelles sont produits les vêtements qu'ils portent.
D'accord. Bah écoutez, je pense que c'est des pistes hein, qu'il faut effectivement avoir à l'esprit hein, et on verra effectivement quels sont les points de vigilance à avoir dans le cas d'achat de vêtements de ce type. Hein. Alors peut-être encore une question sur la réalité humaine, Jean-François.
Oui, il y a derrière les chiffres, il y a des réalités humaines, des ouvriers qui travaillent 15 heures par jour dans des conditions inhumaines. Est-ce que les consommateurs sont-ils sensibles à cet argument pour repenser leur mode de consommation ?
Oui, en effet, comme nous le disions, hein, de plus en plus de consommateurs sont préoccupés par ces aspects. En 2019 déjà, un sondage Ipsos révélait que 65% des consommateurs français considéraient l'engagement des marques en matière de développement durable comme un critère clé lors de l'achat de vêtements. Et malgré un pouvoir d'achat en berne, il faut le dire, et des arbitrages en conséquence, ces préoccupations sont toujours d'actualité aujourd'hui. Et en termes de mode éthique, les critères majeurs qui guident les achats incluent bien sûr le respect de l'environnement, mais aussi les conditions de travail décentes et une rémunération équitable.
D'accord. Alors, au-delà de ces aspects importants, il y a aussi la santé de ceux qui vont consommer ces vêtements ou les porter. Hein, ces vêtements peu chers contiennent souvent des produits toxiques avec des effets néfastes sur la santé pour ceux qui les portent. Hein. Est-ce que vous aviez par exemple des exemples concrets de problèmes de santé liés à ces
Oui, ces bah ouais. Alors c'est tout à fait documenté, hein, bien sûr. Sur les étiquettes, il y a la composition en tissu hein, qui est mm-hmm. indiquée, mais il n'y figure pas les diverses substances chimiques utilisées par l'industrie du textile afin de traiter les tissus, mm-hmm. en vue de les colorer, les rendre plus souples, plus résistants ou imperméables. Mm-hmm. Or, même si les concentrations ne sont pas forcément élevées, il est important de les prendre en compte, étant donné leurs effets sur notre santé. Donc de nombreux consommateurs souffrent de réactions allergiques, irritations, eczéma ou autres, au contact d'un nouveau vêtement ou de nouvelles chaussures. Mm-hmm. C'est pourquoi le premier geste à faire après l'achat d'un vêtement neuf est de le laver, mm-hmm. en respectant bien sûr les consignes figurant sur l'étiquette. Hein. Mais c'est une problématique qui est inexistante avec les vêtements de seconde main, dont on va parler tout à l'heure.
Tout à fait.
Mais il est important de prendre en compte ces produits toxiques utilisés dans les vêtements généralement de basse qualité. Donc on peut citer les phtalates, le formaldéhyde et ce genre de produits qui sont très nocifs.
D'accord. C'est important aussi de attirer la vigilance hein, sur ces aspects-là. Alors on le voit souvent, c'est souvent les enfants qui sont plus réactifs, hein, peut-être plus vulnérables à ce genre de réaction.
Oui, ce sont des problèmes que l'on retrouve souvent aussi avec les déguisements. Bon là, c'est pas forcément l'objet de
Halloween arrivant peut-être.
De notre entretien, mais voilà, les déguisements contiennent très souvent des matériaux déjà qui sont inflammables,
oui.
Et en plus des substances chimiques. Qui ne sont pas sans effet sur la peau, qui peuvent même parfois traverser l'épiderme. Mmh. Donc il faut être très très vigilant. Il y a régulièrement des rappels de produits par la DGCCRF.
D'accord. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'information hein, de ces rappels. Il faut quelquefois être attentif ou chercher soi-même sur un site internet quels sont les produits rappelés. Donc là, quelque part, il y a aussi des trous dans la raquette.
Oui, effectivement, c'est au consommateur de s'informer.
Oui.
Donc, alors, normalement, ces produits, quand ils sont rappelés, le sont très rapidement. Hein, ils ne sont pas laissés en rayon. Mais il est important de se tenir informé et de vérifier avant l'achat la composition du déguisement pour les enfants. Et puis de se rendre sur des sites comme celui de la DGCCRF où il y a la liste des produits rappelés ou sur Signal Conso.
Oui, bon, il y en a un certain nombre. Hein, donc c'est vrai qu'on peut s'y perdre quelquefois en allant sur ce site hein, et être assez surpris du nombre de rappels aussi.
Oui, malheureusement, ça peut être assez effrayant.
Voilà, après c'est un principe de précaution hein, qui fait que voilà. Mais en tous les cas, allez sur le site, vous verrez que voilà, il y a plein de choses à découvrir. En tout cas, la première pratique à faire, c'est tout simplement de sentir le vêtement. Hein.
Oui, bien sûr, le toucher, manipuler, etc. La composition du vêtement, c'est très important de vérifier la composition au niveau du tissu. Mm-hmm. Si ce sont des tissus à base de pétrole, enfin des tissus plastiques, on peut déjà se méfier.
D'accord, c'est un premier critère.
Hein. Voilà.
Alors on dirait, est-ce que le coton est mieux Oui.
Oui, ça pour le contact avec la peau, le coton sera mieux. Les fibres naturelles, d'une manière générale.
Oui.
Et puis se méfier également de tout ce qui est flocage.
Mm-hmm.
Ce sont des produits aussi qui sont très agressifs.
D'accord.
Qui sont utilisés.
Peut-on faire confiance aux fabricants de fast fashion quand certains affirment respecter les normes de production ?
Bon, c'est vrai que l'Union européenne dispose de la réglementation REACH qui interdit l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les textiles et les cuirs destinés au marché européen. Mais le dispositif présente des lacunes, notamment concernant les importations. Et les Européens importent l'essentiel des produits textiles de pays situés à des milliers de kilomètres, comme l'Inde, la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge ou la Chine et d'autres, dans lesquels les exigences du règlement REACH ne sont pas nécessairement connues et encore moins respectées.
Mmh.
Dès lors, un risque sanitaire existe aussi pour les travailleurs en bout de chaîne. Donc, ce risque existe pour les consommateurs, hein, comme
sûr.
On l'a dit, mais il existe aussi pour les travailleurs hein,
ouais.
qui confectionnent souvent les habits et les chaussures sans équipement de protection adéquate et plus souvent sans même être informés de leur dangerosité. Donc, en privilégiant des produits européens fabriqués en Europe, on a la garantie que cette réglementation est respectée.
D'accord. Donc ça, c'est un bon conseil, ça, à suivre. Hein. Donc vérifiez bien qui est le vendeur, où est-ce qu'il se situe.
Oui, qui est le producteur,
le
surtout.
Producteur,
oui,
surtout.
Oui, le produit de production.
Voilà. Alors ça, c'est pas toujours évident de le trouver hein, quand on achète sur le net.
Ah oui. Alors sur Internet, ça doit normalement figurer, mais effectivement, tous les sites Internet ne sont pas bons élèves,
oui.
Malheureusement.
Donc c'est peut-être ceux-là qu'il faut abandonner et aller plutôt vers les sites qui donnent cette information.
Voilà, alors de toute façon, d'une manière générale, moins vous trouvez les informations sur les produits, plus il faut se méfier
d'accord.
du site. Hein.
Oui. Oui, c'est une bonne pratique d'achat.
D'une manière générale.
Voilà.
Oui,
exactement. Alors au-delà du prix attractif, hein, parce que c'est souvent l'argument qui va faire balancer l'acheteur, hein, si on veut consommer aussi de manière plus éthique, à quoi faut-il être attentif lors de l'achat du vêtement ? Vous avez déjà apporté quelques réponses, hein, peut-être à compléter.
Oui, alors c'est sûr que si l'on ne prête attention qu'au seul prix figurant sur l'étiquette, la fast fashion l'emporte haut la main. Hein.
Oui.
Difficile en effet pour des marques françaises qui conçoivent leurs vêtements en Europe de rivaliser avec des t-shirts neufs, fabriqués à l'autre bout du monde et vendus à 3 euros. Hein.
Mm-hmm.
Le coût réel d'un vêtement dépend de plusieurs étapes, le choix du tissu, la fabrication, l'emballage, la logistique, les frais administratifs, etc. etc. et la marge, bien sûr, pour le vendeur. Et certains de ces coûts sont incompressibles. Et en dessous d'un certain montant, le vêtement ne peut tout simplement pas être de bonne qualité.
Mmh.
C'est impossible.
Mmh.
Donc pour un achat neuf plus éthique, les principaux points de vigilance sont la provenance, hein, comme on l'a dit, la France, mais aussi le Portugal, l'Italie, la Roumanie. Le Maroc et la Turquie sont aussi réputés pour leur savoir-faire. Et bien sûr, la qualité du tissu, comme on l'a dit, plutôt des fibres naturelles. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un vêtement est plus cher qu'il sera forcément de meilleure qualité. Car dans certains cas, nous payons davantage la marque ou l'image que la qualité intrinsèque du produit. Mmh. Donc, être attentif, effectivement, au pays de production, c'est important.
C'est le premier
c'est
élément, oui.
La première chose, oui, oui. Et ensuite, le matériau.
Mmh. Très bien. Bah, écoutez, merci Agnès pour ces précisions. On s'attache maintenant à connaître les alternatives responsables et accessibles hein, pour le consommateur. On parle souvent de seconde main, on l'a déjà annoncé, hein, qui est une tendance qui permet d'acheter par exemple une veste à 30€ au lieu de 150€ hein, neuve. Hein. Mm-hmm. Alors c'est intéressant, mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Ne risque-t-on pas de perdre finalement en durée de vie du vêtement, voire en qualité lorsqu'on est dans cette pratique-là?
Alors, en se tournant vers les professionnels de la seconde main, les consommateurs ont la garantie d'avoir accès à du textile à la fois peu cher et de qualité. En effet, si le vintage, qui est très tendance, hein, comme vous l'avez dit, permet de se procurer des pièces sélectionnées minutieusement par des chineurs qui privilégient l'authenticité de vêtements qui ont parfois plusieurs décennies, ceux-ci n'ont parfois jamais été portés. Mmh. Il y a également les friperies qui regorgent de pépites à des prix bien plus bas. Et ces friperies sont bien souvent expertes dans le tri des dons qu'elles collectent pour ne retenir que les meilleures pièces, mmh. les plus qualitatives.
Oui.
Et après, il y a encore le surcyclage qui fait appel à un véritable savoir-faire créatif, mmh. et qui va pimper, comme on dit, qui va redonner de la valeur à des vêtements qui seraient passés de mode ou un peu obsolètes.
Oui.
Voilà, donc... D'une manière générale, en faisant appel à ces professionnels, on est sûr d'avoir un vêtement qui sera durable.
C'est vrai qu'on a des critères hein, aussi hein, dans l'achat. Quand on achète un vêtement, d'une part, ben, vous le disiez, c'est ce qui va résister dans le temps, c'est l'usure. Est-ce qu'il va se démoder vite ou pas? Ça, c'est peut-être deux critères qui peuvent être...
Oui, alors en effet, pour ce qui est de la mode, on va dire... aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que tout est à la mode. Mmh. Toutes les modes sont tendance. On peut être stylé en étant habillé à la mode années 70, années 80, ça revient beaucoup au goût du jour.
D'accord.
Donc
oui, oui.
Aujourd'hui, on n'a pas trop ce souci. Et l'avantage avec les friperies, c'est que tous ces styles vestimentaires sont présents mmh. dans les friperies.
Bien sûr.
Ouais. Et après, pour ce qui est de la qualité, encore une fois, la plupart de ces structures sont expertes en termes de repérage de produits d'une extrême qualité.
D'accord. Donc, allons visiter les friperies, hein, si ce n'est pas déjà le cas, hein, voilà, pour se faire une idée. Et on peut effectivement tester la qualité du vêtement et bien sûr l'essayer comme dans toute boutique classique, en
Tout
fait.
Tout à hein. fait.
Est-ce que la loi anti-gaspillage de 2020, qui interdit la destruction des invendus non alimentaires, a-t-elle favorisé la consommation responsable des vêtements? Quelles réponses ont été trouvées pour écouler les stocks invendus, comme par exemple la création de nouveaux magasins de déstockage?
Alors, l'un des objectifs principaux de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire est d'empêcher la destruction des invendus. Alors que chaque seconde, 100 pièces neuves sont injectées sur le marché français. Chaque seconde.
Mmh.
Selon une enquête menée par le média d'investigation Disclose en partenariat avec Reporter, hein, qui est un média écologique, les décrets adoptés en 2022 interdisant ce gaspillage sont assez contre-productifs. Si les magasins de déstockage se sont effectivement multipliés ces dernières années, au grand bonheur des petits budgets, hein, mmh, on va dire.
Bien sûr.
La loi, en interdisant la destruction des invendus textiles, a poussé les marques à trouver des solutions pour s'en débarrasser.
Mmh.
Alors, l'une des portes de sortie, c'est le mécénat d'entreprise. Et grâce à ce dispositif, en échange de dons numéraires, en nature ou en compétences à des associations, les entreprises bénéficient d'une réduction fiscale à hauteur de 60% de la valeur de leurs dons. Pour mmh. moins de 2 millions d'euros, hein, et de 40% pour plus de 2 millions d'euros. Donc ce dispositif bénéficie aujourd'hui à tout type de société, notamment à des entreprises de la fast fashion et de l'ultra fast fashion. Alors que dans l'esprit de la loi, les dons permettent d'éviter la destruction polluante d'invendus textiles, notamment pour habiller ceux qui en ont plus besoin. mais avec une subvention pour ses dons, les entreprises de fast fashion et d'ultra fast fashion sont d'une certaine façon validées dans leur modèle de production excessive. D'autant que certaines associations comme Emmaüs croulent sous les vêtements au point de ne pas réussir à les écouler.
Donc il y a un effet pervers là, qui s'est mis en place. Donc il faudrait repenser le modèle en fait.
Eh bien, il faudrait peut-être encadrer de façon encore plus drastique les pratiques de ces entreprises, hein, qui sont quand même peu scrupuleuses et qui profitent d'un dispositif qui, au départ, est tout à fait vertueux.
Bien sûr, oui, oui. Est-ce qu'il faudrait supprimer l'avantage fiscal ? Est-ce que les associations seraient aussi bien servies, du coup, en termes de vêtements
À partir du moment où il y a cette surproduction, les associations se retrouveront toujours avec des dons de mauvaise qualité. Parce que quand on achète un produit de mauvaise qualité, on le porte 2-3 fois et puis après on le met à la benne.
Bien sûr, ouais.
Donc après ce sont des dons qui viennent encombrer ces structures qui n'arrivent pas à les écouler. Et à côté de ça, l'entreprise de fast fashion continue de surproduire et bénéficie d'avantages fiscaux.
Tout à fait. Et le tri entre le bon vêtement et le mauvais est plus lourd à porter, du coup
Oui, c'est sûr, ça fait énormément de travail à assumer. Ça encombre encore une fois les structures et qui se retrouvent à devoir elles-mêmes disposer de ces produits de mauvaise qualité.
Il existe aujourd'hui des acteurs pour lutter contre le gaspillage vestimentaire tels que Refashion ou le relais. Qui sont-ils et quel est leur rôle ?
Alors, ces organismes prouvent que rien ne se jette et que tout se transforme, à partir du moment où c'est de la qualité. Refashion, par exemple, est un éco-organisme qui est en charge de la gestion et de la prévention des déchets textiles en France. Donc, pour réduire, réparer, réutiliser, recycler, il est proposé aux consommateurs des astuces pour trier sa garde-robe, des cartographies pour trouver un point de collecte ou un réparateur près de chez soi. Vous avez parlé du Relais Est. Le Relais Est est une structure alsacienne qui a pour activité la collecte, le tri et la valorisation de textiles de seconde main. C'est le seul centre de tri textile complet en Alsace et en Franche-Comté d'ailleurs. Les textiles collectés dans leurs bornes sont réceptionnés au centre de tri qui est situé à Wittenheim dans le Haut-Rhin, où ils sont scrupuleusement triés à la main par leurs salariés en insertion et revendus à bas prix dans 11 boutiques en Alsace et 2 en Franche-Comté. Donc ils font partie d'un écosystème qui est là pour permettre à la fois d'éviter la surconsommation et la production de déchets et de permettre aux consommateurs qui en ont besoin de se vêtir à bas prix.
D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres acteurs tels que Emmaüs France aussi qui procède à des collectes ou un autre acteur qui s'appelle Tisson la Solidarité en France. Donc on mettra d'ailleurs en ligne les liens pour retrouver des points de collecte pour nos auditeurs s'ils le souhaitent. Alors on arrive tout doucement au terme de cette émission et j'ai une question qui concerne directement le mois de l'économie sociale et solidaire. Que proposent les acteurs de l'ESS comme alternative à la fast fashion ? Est-ce que vous avez des exemples parlants ?
Alors, on parlait à l'instant du Relais Est. Je le cite à nouveau. Sa vocation est de créer des emplois en insertion pour des personnes en situation d'exclusion. Il y a 200 salariés qui travaillent au Relais Est, dont 40% sont en insertion, ce qui contribue à renforcer l'emploi sur le territoire et maintenir le dynamisme de l'économie locale, ce qui n'est évidemment pas le cas de la fast fashion. Cette coopérative, comme d'autres structures locales relevant de l'économie sociale et solidaire et de la production responsable, telles que Vétis, que je peux citer aussi, qui est basée à Elkirch, permet de s'habiller à tout petit prix en favorisant l'inclusion sociale et en réduisant l'impact de la planète, comme l'impact sur notre porte-monnaie, bien sûr.
D'accord. Donc ça, ce sont les structures de l'insertion par l'activité économique.
Tout à fait.
IAE, c'est comme ça qu'on les... qu'on les nomme aussi. Hein. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres acteurs de l'USS ? Alors, on a parlé d'Emmaüs, bien sûr, toutes les associations qui œuvrent dans ce domaine. Hein. Est-ce qu'il y a des associations qui accompagnent aussi des personnes en difficulté, notamment pour les aider à s'habiller de manière plus responsable et peut-être plus économique aussi ?
Alors, il existe en effet des organismes qui vont accompagner des personnes qui traverseraient des périodes difficiles et pour leur permettre de s'habiller tout en maîtrisant leur budget. Mmh. Il y a des structures comme la Cité du Réemploi qui collectent divers objets, dont des articles textiles, pour les revendre à prix solidaire, voire pour en faire don. La cravate solidaire, par exemple, propose des vêtements pour hommes et femmes qu'ils peuvent prêter ou louer pour permettre à ces personnes de se rendre à un entretien d'embauche. Donc ce sont évidemment des solutions intéressantes pour réutiliser des pièces au lieu d'acheter du neuf et éviter la surconsommation tout en maîtrisant son budget. La cravate solidaire, par exemple, c'est aussi un réseau d'associations qui œuvre à travers toute la France et elle lutte contre les discriminations, notamment là, les discriminations à l'embauche.
D'accord. Donc il y a d'autres valeurs aussi qui sont défendues par ces structures-là. Hein.
Ce sont des valeurs de l'économie sociale et solidaire qui sont des valeurs d'inclusion d'équité.
Bien sûr. Alors, on a aussi posé la question à un moment donné, est-ce que Crésus accompagne, bien sûr, des personnes en difficulté liées au surendettement et à de graves difficultés budgétaires, hein. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas jusqu'à conseiller systématiquement les personnes sur la manière d'acheter plus responsable, en tout cas, tout en faisant des économies, hein. Mais ça peut être le cas dans certains accompagnements budgétaires. Mm-hmm. Hein, donc, Crésus peut aussi jouer un rôle dans une certaine mesure, pour aider les personnes vers une consommation autre, si on constate que les dépenses vestimentaires, par exemple, posent une réelle difficulté dans l'équilibre budgétaire. Voilà. Donc ça, c'est un autre exemple aussi qu'on peut donner par rapport à cette gestion des achats vestimentaires et gestion responsable, on va dire. Alors nous arrivons au mot de la fin, à la conclusion, Agnès. Pour conclure, si vous deviez donner quelques conseils à nos auditeurs, alors des conseils concrets, hein, que vous leur diriez-vous pour s'habiller au meilleur prix, mais sans compromettre leur santé, leur éthique et notre environnement ?
Alors on l'a vu, si les alternatives à la fast fashion sont indispensables pour nous diriger vers un mode de consommation plus durable, la seconde main notamment, la baisse de la production demeure le seul véritable moyen d'enrayer cette spirale de dégâts sociaux, de risques sanitaires et de pollution environnementale. Donc c'est une démarche qui s'inscrit dans la slow fashion, excusez-moi pour l'anglicisme, pour une consommation raisonnée. C'est un mouvement apparu au début des années 2000 et qui s'est intensifié après la tragédie du Rana Plaza, dont nous avons tous beaucoup entendu parler. Mm-hmm. Donc ça consiste à opter pour des vêtements en moins grand nombre, mm-hmm. mais de meilleure qualité.
D'accord.
Donc quand on tient vraiment à acheter du neuf, et on a le droit,
bien sûr,
donc veillez vraiment à ce que ce soit de la qualité. Et sinon, privilégier la seconde main, ça permet de préserver sa santé, de préserver son budget et de contribuer vraiment au dynamisme de l'économie locale. Donc,
écoutez, le mot est passé. Donc, slow fashion, c'est revoyons nos manières de consommer, notre acte d'achat finalement. Hein. Merci infiniment, Agnès Foul. Je le rappelle, vous êtes chargée de mission achat responsable au sein de la Chambre de consommation de l'Alsace et du Grand Est.
Merci à vous.
Merci à Jean-François.
Merci.
Et à très bientôt sur Radio Crésus.
Crésus, la radio qui vous aide.